Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 10h31. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous le matin de 10h30 à 12h30. Des infos, du direct, du débat et vous, évidemment, 0826-300-300. Vous savez que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube. Vous êtes 700 000 à nous suivre et sur Facebook aussi, en live, tous les jours, à 10h30. De 10h30 à 12h30, donc j'attends vos appels. Nous allons traiter plusieurs sujets d'actualité et notamment ce qui s'est passé aux urgences du CHU de Strasbourg. Un patient décède aux urgences, après avoir attendu une vingtaine d'heures sur un brancard. Nous allons revenir sur cette information. Nous allons parler évidemment d'énergie tout à l'heure, économie d'énergie avec des mesures attendues. Attendu, nous attendons avec impatience le discours d'Elisabeth Borne cet après-midi. La Première ministre présentera l'état de la situation énergétique du pays et les mesures de protection des Français. Nos factures, à quoi ressembleront nos factures l'année prochaine? Le bouclier tarifaire, la hausse des tarifs, les plans de sobriété, nous serons tous cet après-midi. À propos d'énergie, tout à l'heure, nous parlerons d'un sujet, là aussi qui vous fait réagir, le chauffage au granulé de bois. Le député Cordier demande une aide pour les classes moyennes face à l'augmentation des prix du pellet. Vous savez que les granulés de bois ont remplacé parfois le fioul, même souvent. Des chaudières à granulés de bois se sont multipliées, ont été vendues ces dernières années en quantité. Et ça coûte cher, de plus en plus cher aussi, le granulé de bois. Donc, nous en parlerons tout à l'heure entre 10h45 et 11h. Entre 11h et midi, je vous proposerai un sujet qui, j'en suis certain, va vous faire réagir. Les Français souffrent de fatigue informationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous sentez peut-être surinformé. Peut-être que vous vous sentez mal informé ou désinformé. Eh bien, n'hésitez pas. 0826-300-300. J'aurai plusieurs invités tout à l'heure et nous en parlerons. Et puis nous parlerons économie aussi dans la dernière demi-heure, entre midi et midi et demi. Je recevrai Jean-Marc Sylvestre, mon confrère, qui est économiste. Il est 10h34. Vous êtes sur Sud Radio. Je vais commencer avec ce qui s'est passé à Strasbourg. Un patient qui décède aux urgences après avoir attendu une vingtaine d'heures sur un brancard. Ça s'est passé le 1er septembre à Strasbourg, donc, et le syndicat Force Ouvrière a écrit au ministre de la Santé, François Braun, pour dénoncer le fonctionnement délétère des urgences. C'était un jeudi. Ce patient avait 81 ans. Il aurait été retrouvé mort sur un brancard au nouvel hôpital civil de Strasbourg après avoir passé 21 heures, plus de 20 heures, 22 heures sur un brancard au moment de la transmission entre les équipes du changement d'équipe. Entre les équipes du matin et celles de l'après-midi. Il était arrivé la veille, le 31 août, en début d'après-midi. Il serait resté donc plus de 20 heures. Je suis en ligne avec Christophe Prudhomme, qui est infirmier anesthésiste à l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg et secrétaire général de Force Ouvrière Santé. Christophe Prudhomme, bonjour.
Bonjour, Monsieur Bourdin, c'est Christian Prudhomme. Il n'y a pas de souci.
Christian Prudhomme.
Oui.
Bon, Christian Prudhomme, l'octogénaire, ce patient de 81 ans, a été retrouvé décédé dans quelles circonstances? Que savez-vous des faits? Parce que ça, je suis frappé, bah, évidemment tout le monde, plus de 20 heures d'attente aux urgences. Que s'est-il réellement passé?
Alors les faits vont être établis, hein, parce que effectivement les équipes soignantes nous ont ramené des informations, mais qui sont pas complètes. Et on sait par contre qu'il y a un événement indésirable grave qui a été déposé pour faire la lumière en interne. Par contre, ce que je peux vous dire et spécifier, c'est qu'il a été pris en charge. Il a été retrouvé 22 heures sur un brancard dans les urgences, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu avant de rentrer aux urgences. Oui. Et ça s'est bien passé dans le service des urgences et il a été pris en charge. Et effectivement, comme vous le dites, il a été découvert mort au moment du changement d'équipe. possible de la tournée, on va dire, des transmissions des équipes du matin et de l'après-midi. C'est ce qui nous pose difficulté. Et une difficulté supplémentaire, c'est que 36 heures avant, on avait déclaré à la direction un droit d'alerte, c'est-à-dire qu'on avait alerté sur une sursaturation des urgences. Il y avait 50 patients pour 30 places. Et le problème, c'est que ça n'a pas été pris en compte et on nous a refusé une réunion extraordinaire pour essayer d'apporter des solutions et traiter le problème.
Donc ce patient est arrivé aux urgences le 31 août.
C'est ça.
Dans
oui.
L'après-midi.
Début d'après-midi, oui.
Début d'après-midi. Il est resté là sans que personne ne s'occupe de lui.
Si, si, il a été pris en charge. Il a
pris,
été
pris en charge, oui, mais après la prise en charge.
Après, je ne peux pas vous dire, parce qu'effectivement, par rapport à ce que nous ont dit les soignants, il a été pris en charge, il a été mis sur un brancard. Maintenant, il y a plusieurs zones. Vous imaginez que si vous avez un effectif pour 30 patients et vous en avez 50, c'est pas la même prise en charge.
Bien sûr.
Après, l'enquête établira, mais effectivement, il peut y avoir des difficultés de prise en charge et de surveillance.
Oui, pris en charge, très bien, mais ensuite, un peu ignoré. Pardon, il souffrait, de quoi souffrait ce patient ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, il aurait une baisse de l'état général, on va dire, généralisé. Mais il y a des marqueurs forts. Nous, on a fait remonter, déjà, c'est un dysfonctionnement qu'un patient passe plus de 12 heures sur un brancard. C'est pas possible. Normalement, on vient aux urgences, en 12 heures, on doit avoir en normalité, on doit avoir le diagnostic, le traitement, la stabilisation, et on doit, soit on part... soit on trouve un lit dans l'hôpital. Mais là, soir-là, il y avait 4 lits disponibles. Donc voilà pourquoi il est resté 22 heures aux urgences.
Il n'y avait que 4 lits disponibles dans l'hôpital. Oui. C'est la raison pour laquelle, dans le service, c'est la raison pour laquelle il est resté sur un brancard. Mais,
très certainement.
Mais, il était accompagné ou pas ? Non, parce que ça me paraît tellement invraisemblable, Christophe Prudhomme. Le décès de cet homme, ça me paraît tellement invraisemblable que j'ai envie d'en savoir plus. Il était accompagné ou pas ?
Non, sur place, la famille n'était pas présente. Elle a été prévenue par la suite du décès du patient. Elle n'était pas présente. Mais encore une fois, ce qui nous pose aussi problème, c'est qu'il y a eu un cas similaire le 17 mars dans le même service. Donc on a l'impression que c'est redondant et qu'on n'en a pas tiré les leçons qu'on aurait dû en tirer. Donc c'est ce qui nous énerve, quoi. C'est que nous, on avait écrit à M. Véran à l'époque, on n'a pas eu de retour. On avait été appuyé par une sénatrice qui avait écrit aussi à M. Véran, on n'a pas eu de retour. On a demandé rendez-vous avec la préfète, directrice de l'ARS Grand Est, on n'a pas eu ces rendez-vous. Donc là, on a tout redemandé et on a écrit à M. Brun.
À M. Brun, le nouveau ministre de la Santé.
C'est ça.
Les urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg, hein, c'est bien cela ?
Oui.
Christophe Prudhomme, bien.
Oui.
Évidemment qu'on a envie d'en savoir plus. Hein, parce que vous avez interrogé les urgentistes qui étaient sur place dans le service ?
Non, mais de toute façon, ils ne vont pas s'exprimer.
Oui.
Ce que je peux vous dire, c'est que je suis en contact avec un médecin qui est en arrêt de travail.
Oui.
Et qui dit que lui, de toute façon, il est en arrêt de travail parce qu'il n'arrive plus à travailler comme il devrait travailler dans les conditions et avec les missions qu'il devrait faire parce qu'on ne lui donne pas les moyens.
Bien.
Et on sait qu'il y a des fuites de professionnels qui quittent l'établissement parce qu'ils n'arrivent plus à travailler, mais ils ne quittent pas pour arrêter le métier. Ils quittent, on en a une qui part pour travailler dans les urgences de la ville d'à côté, dans l'hôpital de la ville d'à côté. Donc il y a des véritables difficultés, dysfonctionnements dans ce service.
Témoignage sur Sud Radio. Marie-Ange est à Colmar. Bonjour Marie-Ange.
Et bonjour.
Bonjour.
Oui, donc moi j'étais soignée à Colmar aussi. Aux urgences à Colmar, rassurez-vous, 8h, 10h d'attente. Et c'était au mois de mai, là, il n'y a pas longtemps. Et j'étais, il y a 2 ans, juste avant le Covid, déjà c'était le bazar à Strasbourg, parce que j'étais en urgence là-bas aussi, et j'ai pas été pris tout de suite, et bon, parce que j'avais une hernie étranglée, donc c'était relativement grave, j'ai été soignée quelques heures plus tard, mais pas aimable. Moi, je suis handicapée et obèse.
Oui.
Les infirmières ont dit « Ah putain, on a le double lot ». Ça fait mal.
Oui.
Et j'ai pas osé en parler au chirurgien parce que nous, on reste avec elle après. Et ça a été. J'ai jamais renouvelé l'opération à Strasbourg. Jamais. Ça a été un très mauvais souvenir, vraiment. Il n'y a pas de considération pour les gens. Colmar, ils ont beaucoup de travail, mais ils sont aimables. Donc, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes aussi.
Oui.
Donc il y a vraiment un problème.
Je me mets aussi à la place du personnel, Marie-Ange.
Ah, oui,
personnel
oui,
débordé, un personnel qui est en sous-effectif et qui effectivement fait face en permanence à un afflux de patients.
Je comprends, c'est très dur.
Bien sûr.
Vraiment, moi, vous savez, je les remercie toujours. Je leur fais un peignoir en satin pour les remercier.
C'est adorable. Merci, Marie-Ange. Merci, Olivier Taboker, dans le Gard. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, Jean-Jacques.
Merci, Olivier, d'être avec nous. C'est un plaisir de retrouver le Gard.
J'ai un témoignage, parce que j'ai ma belle-fille qui travaille dans les urgences, enfin, qui travaillait dans les urgences.
À quel endroit, Olivier ?
À Arles.
À l'hôpital d'Arles.
Et elle réceptionnait les gens, donc elle mesurait la gravité pour donner un ordre de priorité de passage.
Ouais.
Donc, parce qu'il y en a qui arrivent, ils ont le bras cassé, ils veulent passer tout de suite, mais l'autre, il arrive avec une hémorragie, il va passer avant, même s'il arrive après. Donc, ouais. Et il est arrivé qu'il y a des gens, ils sortent des couteaux, des fusils, un sabre, une fois, pour passer avant tout le monde.
Votre fille a été menacée.
Ma belle-fille, oui.
Votre belle-fille, oui.
D'ailleurs, elle a quitté les urgences et elle travaille en infirmière libérale maintenant.
Parce que c'était invivable.
Mais c'est invivable. Vous savez, les gens, ils deviennent agressifs. Moi, je suis allé deux fois aux urgences pour moi, personnellement. Ça m'a fait honte parce qu'il y avait à peu près 50 personnes qui attendaient et j'ai montré la lettre que le docteur m'a donnée et je suis passé avant tout le monde.
Oui.
Parce que j'avais 4,5 grammes de sucre dans le sang. Et ils ont dit, vous avez dépassé le seuil du coma diabétique, vous risquez de rester, donc je suis passé avant les autres.
Oui.
Ça me faisait de la peine parce que je voyais des gens avec le bras cassé, je sens quand même. Et les gens me regardaient de travers, j'arrive à le comprendre aussi. Le problème, c'est que sur les 50, il y en avait 30, c'était de la bobologie, ils n'avaient rien, quoi. Ils viennent parce que le médecin ne les prend pas, donc ils sont surchargés pour ça aussi.
Et Christophe Prudhomme, vous entendez, bobologie souvent, malheureusement, aux urgences.
Alors, il y en a, et c'était, on va dire, la défense à l'époque de Mme Buzyn quand on avait fait les grèves des urgences. Mais nous, ce qui nous pose problème, par exemple, sur le CHU Strasbourg, sur les deux sites des urgences, vous avez 222 passages au plus haut sur 24 heures, et il faut hospitaliser 110 personnes. Oui. Donc, les 110 personnes, il faut trouver 110 lits. Et je vous ai dit avant, le soir du droit d'alerte, le 30 août, on avait 4 lits disponibles.
Oui.
Donc, la bobologie, elle pose des problèmes, on va dire, de gestion sur le temps donné. Mais après, la bobologie, elle repart. Elle va rester 3-4 heures, on va leur donner, où ils attendent. Ils vont râler parce qu'ils attendent. Mais ce n'est pas ceux-là, foncièrement, qui nous posent difficulté. Ceux qui nous posent difficulté, c'est ceux qui sont sur un brancard, qu'il faut trouver un lit. Et je vous dis, 50% des entrants doivent trouver un lit. Donc, on n'a pas les lits. Et on n'a pas les lits. Et du coup, c'est le cercle non vertueux avec les infirmières qui s'épuisent, et puis parce qu'on est en surcharge. Et puis on arrive à ce que décriait monsieur, tout le monde quitte les urgences, alors que c'est un service attractif à la base. Quand vous sortez de l'école, vous avez envie de travailler dans ce genre de service.
Merci Olivier.
Je voulais rajouter quelque chose.
Très vite, Olivier.
Mon médecin, par exemple, vient de s'arrêter, alors qu'il lui restait 4-5 ans à faire, parce qu'il était menacé.
Et menacé ?
On lui a mis un couteau sur le ventre, parce que les gens voulaient passer, et ils n'avaient pas de rendez-vous, ils voulaient passer quand même. Sa femme s'est insultée parce qu'elle n'a pas pu prendre de rendez-vous avant 15 jours. Et lui, il m'a dit, quand j'ouvre la porte du cabinet dans la salle d'attente, je tremble, j'ai peur, mais je ferme. Je ferme parce que ça fait deux fois qu'il se fait agresser, et il ferme. Il a arrêté, il a planté tous les patients, mais comme ça, il nous a prévenu le samedi, j'avais rendez-vous le lundi, moi, il m'a dit, j'ai fermé.
Et il ferme. Merci Olivier. Merci. Vous voyez que les témoignages sont importants. Vous voyez ? Parce que c'est la réalité du quotidien. La réalité du quotidien. C'est ce que j'aime à travers vos témoignages. 0826-300-300. D'ailleurs, je vais prendre Dominique. Est-ce que j'ai le temps ? Non, déjà 44. Je vais prendre Dominique. Mais juste après une petite pub de 2 minutes. Ensuite, Dominique, qui est à Roussillon, dans le Vaucluse, qui a envie de témoigner, elle aussi, sur les urgences. Merci d'être avec nous. 0826-300-300. Vos témoignages sont utiles. Ils nous permettent de voir et de savoir ce qui se passe. À tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Un plaisir d'être avec vous de 10h30 à 12h30. Vous êtes avec nous de plus en plus nombreux, 0826-300-300, vous appelez, vous réagissez. Le matin, c'est pas compliqué, entre 10h30 et 11h, c'est de l'actualité avec des sujets d'actualité qui nous paraissent majeurs et qui vous font réagir. Midi, midi et demi, c'est la même chose. Et entre 11h et midi, c'est un grand débat sur une grande question. Et ce matin, nous parlerons de la fatigue. fatigue informationnelle. Je souhaitais y revenir. Est-ce que nous sommes surinformés? Est-ce que vous vous sentez surinformés, mal informés, trop informés? Nous ouvrirons le débat tout à l'heure entre 11h et midi et je vous demande, enfin j'espère que vous allez témoigner 0826 300 300 et donner votre avis. Nous allons parler d'énergie dans un instant, mais je voudrais tout de suite, je l'avais promis, je tiens mes promesses, Dominique est à Roussillon dans le Vaucluse. Dominique, vous voulez témoigner? Dominique, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, alors je suis à Roussillon. Auparavant, j'étais dans les Alpes.
Oui.
Et je voulais vous parler de ce qui s'est produit pour ma maman il y a 8 ans.
Oui.
Elle était alerte, elle avait un beau jardin, elle était dynamique et sur ses deux jambes, et elle s'est malheureusement, à cause de l'ostéoporose, fracturée le col du fémur.
Oui.
Elle a été internée immédiatement en urgence à l'hôpital de la ville la plus proche.
Oui.
Et il se trouve que, comme elle avait 84 ans, eh bien, on l'a fait passer de jour en jour, on l'a fait attendre, parce qu'on était en saison hivernale, il y avait...
C'est-à-dire, elle est restée aux urgences quelques temps, et ensuite on l'a conduite dans une chambre.
On l'a conduite dans une chambre et tous les matins, on l'a ramenée devant le bloc pour l'opérer. Vous savez combien de temps ça a duré, Jean-Jacques ?
Non.
11 jours.
Non.
11 jours. Ma maman est restée à 84 ans, 11 jours en attente de l'opération du fémur. Bilan des courses, elle est ressortie en fauteuil roulant. Elle n'a jamais plus pu remarcher. Donc ça veut dire pour la famille, on était fous, hein, on a essayé de la changer d'hôpital, on n'a rien pu faire parce que tous les hôpitaux de Haute-Savoie sont surchargés en février.
Oui.
Et donc, on a été obligé de vendre la maison. Parce qu'elle n'est plus adaptée à une personne en fauteuil roulant, lui trouver une place en EHPAD. Et depuis, ma maman décroît tous les jours parce que c'était une femme extraordinaire et qui s'est retrouvée, parce qu'on ne l'a pas traitée immédiatement, tous ses muscles, tout s'est affaissé et ma maman n'a jamais plus pu remarcher. 11 jours avant d'être opérée, elle était complètement sédatée. On arrivait tous les jours, on voyait une femme qui était complètement endormie pour lui éviter les souffrances. Tous les jours, il l'amenait devant le bloc. Tous les jours, il la ramenait en disant « Non, on a eu des priorités, des gens plus jeunes, des gens plus abîmés, des gens plus ci, des gens plus là. » Et ma maman remontait. Je vous jure, j'ai failli en venir aux mains avec les gens du service. J'étais fou furieux. Et quand j'ai vu ma maman sortir en fauteuil roulant et qu'on nous a dit « C'est fini, elle ne remarchera jamais parce qu'elle a trop attendu. Une personne âgée, il faut l'opérer tout de suite pour éviter les pertes motrices.
Oui. »
Eh bien, ça a été terminé. Voilà, j'en veux beaucoup. Non pas à l'hôpital, non pas au service d'urgence, non pas au personnel qui sont les vraies élites. J'en ai marre qu'on parle des politiques comme des élites. Ce sont des moins que rien. Ils n'ont rien prévu. Ils n'ont pas prévu la crise énergétique. Ils n'ont pas prévu la crise de santé. Ils n'ont pas prévu la crise de l'hôpital. Ils n'ont pas prévu la crise de la sécurité. Ils n'ont pas prévu la crise de la justice. C'est bien beau de faire des anaphores, mais il va falloir que le public, que les citoyens, les vrais, ceux qui ont une conscience citoyenne, un vrai vivre avec, un vrai vivre en commun, se réveillent pour mettre tous ces gens dehors une bonne fois et revoir les fondations de notre superbe pays qui est plein de compétences, plein de savoir-faire, plein de savoir-vivre. J'en ai ras-le-bol de ces politiques à la noix.
Bien, merci Dominique. Merci, colère. Colère de Dominique, il est 10h52. Allez, nous parlons de la crise énergétique. C'est RTE qui vient de donner ces informations-là à travers une conférence de presse. Le risque de tension sur le réseau électrique cet hiver est accru. C'est ce que dit RTE. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Maxime Troulot.
Oui, mais RTE se veut quand même positif puisqu'il dit qu'il est possible de maîtriser grâce à une forte mobilisation des Français en faveur de ces économies d'énergie. Le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu donc, mais il pourrait être évité en baissant la consommation nationale, Jean-Jacques, de 1 à 5% dans la majorité des cas, voire 15% dans les situations météorologiques les plus extrêmes. C'est ce qu'a détaillé RTE dans un communiqué donc ce matin.
Oui.
Et je rappelle que le gouvernement doit présenter dans la journée les nouvelles modalités du bouclier tarifaire.
C'est la raison pour laquelle nous parlons d'RTE. Risque de tension accrue donc sur le réseau électrique cet hiver, maîtrisable avec de la sobriété. Quelles sont les mesures en matière de sobriété qu'annoncera Elisabeth Borne cet après-midi? Il faudra être un peu patient. C'est à 15h30. Il est 10h53. Je voudrais parler d'énergie aussi et évoquer le chauffage au granulé de bois. Un député, Pierre Cordier, qui est en direct avec nous. Bonjour.
Bonjour, Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député apparenté LR des Ardennes, Pierre Cordier. Vous demandez une aide pour les classes moyennes qui se chauffent aux granulés de bois. Pourquoi? Parce que le prix des granulés de bois a aussi augmenté.
Alors, non seulement il a augmenté, mais il a littéralement explosé. Donc, j'ai sollicité hier, puisqu'il y avait une audition de Mme Pannier-Runacher hier à l'Assemblée nationale, oui. Qui est ministre de la Transition écologique, pour avoir un petit peu des explications à ce sujet, parce qu'on nous bassine à longueur de journée que s'il y a des tensions sur le gaz et les hydrocarbures, c'est lié à ce qui se passe en Ukraine. Voilà, concernant les pellets de bois, c'est quand même un petit peu difficile de justifier que la guerre en Ukraine conduit à ce qui est une multiplication du sac de pellets x2 ou x3. Donc moi, dans mon département des Ardennes, il y a beaucoup de gens qui ont fait des investissements sur ces poêles à pellets notamment. Il y a eu des aides de l'État, d'ailleurs, on les a encouragés en leur disant, vous savez, la matière première n'est pas chère, etc. Et c'est vrai que c'était à peu près 2,50 € à 3,50 € le sac. Et là, on dépasse les 10 € le sac. Donc les gens n'en peuvent plus, alors qu'on les a encouragés à acheter ces poêles. Donc j'ai sollicité hier la ministre, bon, qui m'a répondu un petit peu à côté, comme elle le fait d'habitude. Moi, j'ai l'habitude, je suis élu du département des Ardennes. Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de l'industrie. Et les gouvernements successifs derrière Emmanuel Macron m'ont toujours un peu répondu quand même, oui. À côté des questions que je posais. Donc voilà, j'ai posé de manière assez courtoise, mais j'ai énormément de gens dans mes permanences qui me sollicitent à ce sujet.
Eh bien, beaucoup de personnes sont passées au granulé de bois. Ben, d'où vient ce bois, d'ailleurs, Maxime Trollo ?
Eh bien, il peut venir de France. En France, on se fournit avec, par exemple, grâce à la Haute-Loire ou l'Aveyron, mais chez nos voisins européen, ce granulé, provient des États-Unis.
C'est un mode de chauffage bon pour l'environnement ?
Alors oui et non. Le patron, par exemple, des professionnels du chauffage au granulé de bois nous explique que ce chauffage est vertueux écologiquement car on utilise une ressource renouvelable qui est le bois, les forêts. Alors oui, bien sûr, un arbre ça repousse, mais un arbre c'est 20 à 60 cm par an au mieux. Et le problème c'est que brûler du bois, eh bien, ça pollue, ça rejette de l'oxyde de carbone, des particules. Et les scientifiques le disent, la demande croissante de ce bois engendre de la déforestation aux États-Unis.
Diane est à Perpignan. Bonjour Diane.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous vous chauffez au granulé de bois, Diane ?
Non, je suis exploitant. On est exploitant forestier, nous.
Exploitant forestier. Bon, vous dites que le prix des granulés a augmenté car les Français ont eu peur de l'augmentation du gaz, donc ont acheté en masse. Et le prix va rebaisser ?
Non, il va augmenter encore. Tout simplement parce que nous sommes, moi-même, dans le bois actuellement, ou dans le granulé, nous sommes tributaires de l'électricité et du gasoil et tout ça. Donc on travaille avec tout ça. Donc on a eu la même augmentation que les personnes lambda. Nous avons toutes la même augmentation. Enfin, donc le granulé.
C'est un problème quand même.
Ben quand vous avez, monsieur, vous êtes... Vous
Pierre Cordier, que disiez-vous ? Attendez, Diane, parce qu'on n'a pas bien entendu. Pierre Cordier, que disiez-vous ?
Oui, non, je dis une multiplication par 3 ou par 4 du prix, une multiplication par 3 ou par 4 du prix du sac. Oui. Moi, je veux bien prendre en compte les augmentations que madame qui est chef d'entreprise a dans son entreprise, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a quand même des gens qui spéculent et qui anticipent un certain nombre de choses sur le prix du granulé, parce qu'il faut savoir, j'entendais les commentaires de votre collègue à l'instant... Il y a aussi beaucoup de matière qui n'est pas réutilisée dans le domaine du bois pour faire ces granulés. Ces granulés ne sont pas faits avec des essences nobles, ce n'est pas fait avec du chêne, du charme ou du merisier. C'est fait aussi avec beaucoup de déchets dans les scieries, etc. Donc on nous explique aujourd'hui que le prix a été multiplié par 3 parce que les gens ont anticipé et qu'il y a davantage de demandes sur le marché. C'est possible, mais je crois qu'il y a aussi des gens qui s'en mettent aussi plein les poches. Il faut dire les choses et que l'augmentation du prix de l'électricité n'explique pas une multiplication par 3 ou par 4 du paquet.
Bien, Diane, vous répondez rapidement.
Oui, mais monsieur le député, vous savez tout très bien que dans toute guerre ou dans n'importe quoi, il y en a toujours qui se remplissent les choses. Même dans les députés, il y en a plein qui se remplissent les
poches.
Tout le monde se remplit les poches. Il y en a toujours eu dans toutes sortes de métiers.
Bon, mais Diane,
par contre, j'aimerais vous poser quand même une question. Moi, nous, on est exploitant forestier. Pourquoi l'ONF a doublé les prix et on m'a interdit de couper les arbres en début d'été ? Pourquoi vous avez ouvert maintenant simplement les ventes ? Et ça fait que, monsieur, là, on est presque en pénurie de bois. Vous avez incité les gens à se chauffer au bois et on est livrés au compte-goutte. Alors, monsieur, et les gens qui se chauffent n'auront pas le droit.
Pierre Cordier n'est pas au gouvernement. Oui, Diane.
Et les gens qui se chauffent ont du mal à se chauffer avec le prix qui explose. Parce que nous aussi, monsieur, on a du mal à se procurer du bois. Et nous aussi, monsieur, ouais. L'essence a augmenté. Nous aussi, monsieur, l'électricité a augmenté. Ouais, et nous aussi, on est obligé d'augmenter.
Ça n'explique pas une multiplication par 3 ou par 4, d'une part. D'autre part, moi, je suis député apparenté Les Républicains. Oui. Je ne suis absolument pas dans la majorité En Marche au pouvoir. Et troisième élément, quand vous dites, vous, pour mettre l'ONF et les élus dans le même sac, c'est le cas de le dire, moi, je ne suis pas le patron de l'ONF. L'ONF, c'est une structure qui est dirigée par le pouvoir exécutif.
Donc, merci Pierre Cordier, merci. Il est 10h59, j'arrête là, le débat est intéressant, mais il est 59. Allez, tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Pendant une heure, nous allons parler d'information et de fatigue informationnelle. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est la fatigue informationnelle. Est-ce que nous nous sentons surinformés? Est-ce que nous nous sentons trop informés? Est-ce que nous nous sentons mal informés? Tous ces sujets seront abordés entre 11h et midi jusqu'à midi. Et vous allez réagir évidemment au 0826-300-300. Pourquoi est-ce que je parle de fatigue informationnelle? Eh bien parce qu'une enquête vient de sortir. Elle m'a passionné. Les Français et la fatigue informationnelle. Enquête parmi les auteurs de l'enquête, eh ben nous avons l'un de ces auteurs, justement, David Médioni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès, qui participe donc à la rédaction de cette enquête. David Médioni, nous avons avec nous aussi Anne-Sophie Nouvelle, qui est journaliste, auteur du documentaire « Les médias, le monde et moi ».
Bonjour. Bonjour.
Merci. Et puis Grégory Tabibian, qui est fondateur de la chaîne YouTube « Je suis pas content TV ». C'est bien ça, j'ai bien prononcé. Je suis pas content TV. 326 000 abonnés.
C'est ça.
326 000 abonnés.
Bien.
Ça fait combien de temps que vous
On attaque la 9e année.
9e année. 9e année.
On attaque la 9e.
Grégory Tabibian. Bien. Vous avez un autre regard sur l'information, sur la manière d'informer, évidemment. Nous allons voir.
Peut-être.
Si c'est le cas ou pas. Hein. Bien. Revenons sur cette enquête, une enquête qui est, je vous l'ai dit, essentielle. Moi, je n'ai pas été surpris par les résultats de cette enquête, David Médioni, parce que je sens bien qu'il y a une fatigue informationnelle. C'est quoi la fatigue informationnelle?
Alors, la fatigue informationnelle, c'est à la fois la sensation de recevoir trop d'informations dans une journée, de ne pas finalement être capable de prendre une décision. On aurait pu penser que l'éclosion du numérique, la multiplication des canaux d'information permettrait d'avoir une opinion plus éclairée sur le monde. Et en fait, on se rend compte que l'abondance, finalement, ne permet pas d'avoir une...
Trop d'informations.
Et surtout des
fait fuir.
Exactement. Et surtout, trop d'informations, ce trop-plein d'informations conduit à du stress, conduit à une stratégie de retrait de la part des différents profils de Français qu'on a typologisés dans l'étude.
Oui.
Et finalement, pose une question importante aux médias pour savoir quel est le lien qu'ils entretiennent avec leur public et surtout, est-ce que ce lien existe encore? Et c'est dans cette intuition qu'on avait de fatigue informationnelle qu'on a essayé de documenter à travers l'étude.
Surcharge informationnelle, donc infobésité, on emploie ce mot inventé à l'occasion infobésité. Bien, surcharge informationnelle, pourquoi 0826-300-300? Dites-nous, j'aimerais vraiment avoir votre avis, je sens que vous allez appeler et vous allez réagir. Alors, pourquoi cette surcharge informationnelle? D'abord, est-ce que vous sentez qu'elle est réelle, cette surcharge informationnelle, Anne-Sophie Nouvelle?
Ça dépend.
Ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend de quoi?
Et l'étude...
Vous l'avez lue, l'étude?
Bien
vous
entendu,
l'avez
je l'ai lue.
Elle est passionnante.
Je l'ai relayée, elle est passionnante, mais elle ne m'a pas étonnée non plus. Le Reuters Institute, au niveau international, fait des études qui expliquaient déjà cette fatigue informationnelle, le fait que certains évitent l'information également, mais il y a différents types de symptômes.
D'ailleurs, je vais demander à nos auditeurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous débranchez, par exemple, les alertes, je ne sais pas, moi, vous coupez la radio, vous ne regardez plus la télévision parce que vous n'achetez plus de journaux, parce que vous ne voulez plus être informé, parce que vous en avez assez d'être informé.
Dans l'étude, il y a 77% des Français et des Françaises qui disent ressentir cette fatigue. Et c'est pas véritablement nouveau. En fait, pour moi, il y a des gens qui sont surinformés, c'est les hyper connectés, qui sont dans ce phénomène d'infobésité, mais qui arrivent à le contrôler.
À le contrôler.
Il y a aussi ceux qui sont, moi, ce que j'avais appelé la médianorexie, c'est-à-dire ceux qui ne ne s'informent plus, qui se détournent de l'information. Et ensuite, il y a ceux qui s'informent, mais ils ne savent pas où donner de la tête. Et c'est la crise de foi. Donc si on fait un parallèle avec notre rapport à l'alimentation, on peut simplement expliquer ce qui se passe avec l'information. Et si on rajoute à ça les phénomènes de défiance vis-à-vis de notre profession journalistique, ça pose tout un tas de questions. Et donc, en effet, le foisonnement dont on parlait aujourd'hui ne permet pas... Voilà, il faut arriver à reprendre la main sur notre information. Et ça, on n'est pas forcément habitué.
Grégory Tabibian, que vouliez-vous dire sur la question ?
Je me permets juste de lire un commentaire.
Allez-y.
Il dure 10 secondes, que j'ai reçu hier. Je reçois des milliers tous les jours. C'était juste ma chronique d'hier. Je ne regrette pas du tout de ne pas avoir la télévision, de ne plus avoir la télévision, et de m'informer uniquement sur Internet, avec une majuscule à Internet, où l'on peut trouver de plus en plus d'émissions avec des gens qualifiés sur des sujets qui parlent, quand ils parlent, et dans lesquels ils ont le temps de développer leurs réflexions. Greg Tabibian, Thinkerview, Livre Noir, Blast, Le Média. Vous savez, le genre d'émissions qu'on ne voit plus à la télé parce que, citation, « les tunnels, ça fait baisser l'audimat ».
Ça veut dire quoi? Les tunnels, ça fait baisser l'audimat?
Je pense que la personne fait spécifiquement référence au fait que on ne donne plus aux gens la possibilité de vraiment développer leur pensée.
Mais la multiplication, alors est-ce que c'est une chance ou pas? La multiplication des sources d'information, des moyens de diffuser l'information, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une chance parce que ça nous permet d'être mieux informés? Ou est-ce que justement ça participe à une forme d'obésité, enfin de informationnelle? Ou est-ce que ça. De surcharge? Que trop de médias surchargent la diffusion de l'information?
Moi, je dirais qu'en fait, la question, c'est pas cette question-là qu'à mon avis qui convient de poser. Je pense que l'abondance n'est pas forcément un problème. Après, c'est de savoir comment on consomme cette information, comment on la reçoit et comment on la fabrique. Comment les journalistes finalement surréagissent sur des choses qui n'ont, à mon sens, pour la population française, n'ont pas forcément de.
Donc, vous mettez en cause là le travail des journalistes.
Je mets en cause le travail des journalistes, mais c'est pas
on
une
va en parler,
façon
on va
de donner.
Parler,
leçon, c'est plus de dire question sur le travail des journalistes, question sur la façon dont les politiques alimentent la bête médiatique et continuent.
C'est quoi la bête médiatique?
La bête médiatique, c'est le flux permanent. C'est le flux permanent. Aujourd'hui, dans une logique de flux, et ce flux permanent, il est alimenté à la fois par les journalistes qui surréagissent sur certains événements, par les politiques qui eux aussi surréagissent pour alimenter et pour faire un commentaire dans l'émotion et ainsi de suite, et par les citoyens qui eux aussi ont une relation addictive à ce flux informationnel continu et infernal finalement quelque part. Et dans l'étude, ce qu'on a essayé de montrer, et ce qui ressort de l'étude, c'est que finalement, ceux qui souffrent le moins de fatigue informationnelle ne sont pas ceux qui consomment le moins d'informations, sont ceux qui consomment des informations dans des univers bornés, fermés. Par univers borné et par univers fermé, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un début et une fin, et qu'il n'y a pas un flux permanent d'émotions qui vient parasiter la lecture ou la réception d'une information. Donc en fait, finalement, c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas les journalistes, les politiques, ainsi de suite, c'est tout le monde, les citoyens, les journalistes et les politiques qui ont tous une responsabilité dans la fatigue informationnelle générale qu'on ressent tous.
Vous voulez ajouter quelque chose, Grégory? Je vous vois réagir, là.
Ce que vous dites, je crois qu'il y a un vrai problème de rapport au temps dans les médias. C'est-à-dire que, à la fois sur le court terme, ça va beaucoup trop vite, et sur le long terme...
Une information chasse l'autre.
C'est ça. C'est-à-dire
pas
que...
Pas de suivi.
Pas de suivi, puis de temps de traitement. Alors peut-être que c'est des souvenirs de jeunesse déformés. Moi, je me souviens, ma mère bossait à l'ORTF.
Oui.
Donc, mon père est décédé, j'étais assez jeune. Ensuite, elle est partie à TF1. Et puis là, elle ne savait pas quoi faire, donc elle me gardait le matin. J'assistais à la création d'un journal télé de 7h du mat à 20h. J'avais quand même l'impression qu'entre le moment où l'information tombait et l'information où elle sortait à 20h, on prenait quand même le temps de donner cette information, de travailler cette information. Et sur le court terme, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'entre le moment où elle apparaît et le moment où elle sort, il se passe parfois 10 minutes. Ça vous donne des exemples comme l'exemple de LCI l'autre jour, où le journaliste dit qu'il y avait une manif à Paris qui était une fake news montée par la Russie, alors qu'en fait, non, elle était là, elle existait, cette manif. Et donc, sur le court terme, ça va beaucoup trop vite, mais sur le long terme, ça va beaucoup trop lentement.
Non, mais des erreurs journalistiques, il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu, bien sûr. Il y en a toujours eu, mais...
Vous dites, il y a danger parce qu'effectivement, on va trop vite et parce qu'on ne vérifie pas. Et parce que, ça, je suis assez d'accord avec vous. Là, vous allez trouver quelqu'un qui va dans votre sens. Mais,
deux tiers de l'information est un copier-coller aujourd'hui. Ça a été chiffré par des économistes, et notamment Julie Acagé. Donc, on sait qu'une dépêche d'une agence de presse est reprise sur tout un tas de sites Internet et elle fait le tour, en effet,
du monde médiatique. Non, mais attendez, une dépêche... dépêche de l'agence de presse, mm-hmm. si ce ne sont que des faits, la dépêche de l'agence de presse est reprise et à juste raison.
Oui, mais beaucoup
à juste
sont
raison.
Reprises. Beaucoup, beaucoup de sites
si on vous dit
Elisabeth
II est décédée il y a une heure, évidemment, oui, tout le monde reprend cette dépêche.
Mais moi, je voudrais juste revenir sur cette logique de
faire flux. Attention, mais oui.
Cette logique de flux, nous, ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que finalement, ça crée une forme de rejet.
Oui.
De rejet parce qu'il y avait un sentiment pour 85% des sondés, sentiment de ne jamais entendre rien d'utile pour prendre une décision dans sa vie. D'avoir vu la même info dans la même journée, la même info dans la journée, 85% aussi. D'avoir un trop-plein d'infos qui empêche de prendre de recul, 60%. Du mal à savoir ce qui est vraiment important, 51%. Donc finalement, l'abondance, on avait l'impression oui. que ça allait créer des citoyens plus éclairés. Et finalement,
en fait,
pas du tout. Donc, quelque part, il faut s'interroger. Et ce n'est pas l'abondance juste des oui. journalistes, c'est l'abondance des réseaux sociaux, l'abondance des commentaires permanents sur les réseaux sociaux. Et que finalement, tout ce flux médiatique.
Mais l'abondance sur Internet aussi.
Sur l'abondance sur Internet, mais avec peut-être une valeur ajoutée que les gens reprochent aux médias, c'est que est-ce qu'on a besoin d'information ou est-ce qu'on a besoin de compréhension ? Parce qu'être informé, ce
moi,
n'est
je
pas savoir expliquer.
Exactement.
Être informé,
je
ce n'est pas avoir
beaucoup
compris.
À ça, je vous le dis tout de suite. Bien, il est 11h15, nous allons revenir sur le sujet dans un instant. Un peu de pub. Et puis Dominique, appel de Châtenay-Malabry, à tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h19, vous sentez-vous surinformé, mal informé ? Nous en parlons, tiens, nous en parlons avec Dominique, qui est dans les Hauts-de-Seine à Châtenay-Malabry. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Monsieur Bourdin.
Merci.
Je vous remercie de me prendre à l'antenne.
Mais je vous en prie Dominique,
allez-y. Je suis un fanatique de l'information, donc on peut considérer que je suis surinformé. En tous les cas, j'essaie de m'informer au maximum. J'adore ça et depuis toujours. Je pense que le problème sur lequel vous mettez le doigt ce matin, j'ai une bonne nouvelle, je pense qu'il y a une solution, ça s'appelle le journalisme.
Vous me faites plaisir, Dominique.
De bons journalistes avec de bons médias sont capables de régler l'excès d'informations, parce que je vais vous apprendre quelque chose, ainsi qu'aux auditeurs, c'est leur métier. Et je voudrais revenir à tout simplement prendre l'exemple du grand Albert Londres, avec sa célèbre phrase, la cathédrale de Reims n'est plus qu'une plaie. Voilà, avec une seule phrase, Albert Londres était capable de décrire une situation très complexe et de faire le tri entre une multitude d'informations. Bien, c'est ça qui nous manque, parce qu'à l'heure actuelle, les médias sont pollués par la propagande d'État, ça c'est bien sûr ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est le meilleur exemple, l'idéologie, Le Monde, France Inter, Libération, dont le dernier titre était quand même « La merde sous les platanes », donc c'est quand même très beau. Le débat politique, puisque la plupart des politiques s'expriment pratiquement plus dans les médias qu'à l'Assemblée ou au Sénat. Et enfin, le débat judiciaire. Je suis, en tant qu'ancien avocat, excédé par cette omniprésence des avocats sur les marches des palais de justice. Songez qu'autrefois, un avocat ne pouvait pas s'exprimer en public sans l'autorisation de son bâtonnier. Et je suis évidemment pour le respect total du secret d'instruction. Donc, si on revient aux fondamentaux, tout simplement, c'est-à-dire un journaliste le plus objectif possible, qui s'efface derrière l'information et derrière les gens, eh bien, on aura une information de qualité qui sera triée de manière de qualité. Il y a des bons exemples, il y a des médias récents, il y a vous, bien entendu, Sud Radio, il y a CNews, il y a Causeur, enfin, il y a des tas de médias qui apparaissent, faut être honnête, essentiellement à droite depuis quelques temps.
Ben oui, Dominique, vous venez de marquer, c'est un marqueur, Dominique, je m'explique. Il y a des médias engagés à droite, il y a des médias engagés à gauche. Moi, je pense qu'on peut faire du journalisme sans être engagé ni à droite ni à gauche. Je vous le dis tout de suite, et ça a toujours été mon credo, mais je ne vais pas parler de moi. Dominique, merci dans tous les cas, c'est très intéressant. Je soulevais, là, pendant la pub, on en parlait, il y a la responsabilité de celui qui reçoit l'information, du citoyen. C'est à lui d'aller chercher. Un bon citoyen, me semble-t-il, qui a envie d'être bien informé, il doit aller et à droite et à gauche. Il doit aller écouter et un média qui défend la droite et un média qui défend la gauche. Malheureusement, je trouve aujourd'hui, c'est que chacun se compartimente. Chacun s'enferme dans un tiroir. C'est-à-dire qu'on ne va chercher et on ne tire qu'un seul tiroir. Le tiroir du média qui correspond à nos opinions. On ne va pas chercher, on n'ouvre pas le tiroir du média qui correspond à d'autres opinions. Qu'en pensez-vous ?
Bah oui, ça c'est le phénomène de bulle informationnelle qui est renforcé par la présence des algorithmes, notamment sur les réseaux sociaux, qui vont se baser sur nos likes et nos préférences et qui vont nous abreuver d'informations similaires. Et donc du coup, au final, on finit par s'enfermer dans un phénomène communautaire. Donc ça demande un effort au public d'aller chercher ailleurs. Et là, on a besoin un peu d'éducation aux médias et à l'information. Donc c'est très développé depuis 2015, les attentats de Charlie Hebdo pour la jeunesse à l'école. Mais je pense qu'il y a toute une frange de la population qui a aussi besoin d'y voir clair, parce qu'on avance dans la société avec une multitude d'outils numériques qui nous arrivent entre les mains, des applications qu'on ne maîtrise pas tout le temps. On ne sait pas comment marchent ces boîtes-là. Et l'information arrive par ces différents canaux-là. Donc c'est important de savoir avoir du discernement.
David Medioni.
Pour rebondir sur ce point, je pense que c'est un point crucial.
Oui, Sophie Nobel.
Cette idée de... Nous, dans l'étude, on a donc fait des typologies de Français. Et moi, il y a un chiffre qui m'a surpris vraiment beaucoup. C'est ce qu'on a appelé les hyperconnectés épuisés, qui représentent à peu près 17% de l'échantillon.
Hyperconnectés épuisés.
Et alors, ces hyperconnectés épuisés sont les plus jeunes.
Oui.
Donc, on avait un peu cette idée que les jeunes qui connaissaient finalement les réseaux sociaux, les codes du numérique et ainsi de suite, savaient s'organiser et savaient comprendre les choses. Et finalement, ils déclarent vraiment, réellement, ressentir une énorme fatigue informationnelle, une espèce de bouillie finalement qui leur arrive tous les jours et ils ne savent pas exactement comment la gérer. Et donc c'est pour rebondir sur cette idée d'éducation aux médias et sur cette idée que finalement cette fatigue informationnelle, c'est un enjeu démocratique puisque ça pose la question de la responsabilité des journalistes, des politiques et ainsi de suite, mais c'est aussi un enjeu de quelque part de santé publique parce que ça peut aussi créer des situations de stress, des situations d'anxiété et ainsi de suite. Donc vraiment cette éducation aux médias est quelque chose de très important.
Éducation aux médias, c'est très important. Et puis, on a ce réflexe, certains ont ce réflexe, de se réfugier dans le média qui correspond à ses opinions, ses propres opinions. On ne va plus chercher... Ça, c'est peut-être une fatigue informationnelle aussi. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher une autre opinion. On ne va plus réfléchir. C'est-à-dire qu'on est persuadé, comme on écoute un média qui correspond à ses propres opinions, on est persuadé qu'on détient la vérité, que ce média détient la vérité, et ça s'arrête là.
La question, c'est est-ce qu'on le faisait avant ?
C'est vrai, à gauche comme à droite,
Est-ce qu'on le faisait avant le numérique ? Est-ce qu'on allait prendre le temps d'aller lire toute la presse papier ? Est-ce qu'on allait prendre le temps d'aller regarder différentes chaînes de télévision ?
Des médias d'opinion ont toujours existé,
oui,
évidemment.
Oui, on est d'accord, mais là, vous parlez des biais cognitifs, c'est-à-dire de la manière dont on veut aller renforcer certaines croyances, ou occulter, ou être dans le déni sur certains autres types de sujets. Donc c'est pour ça qu'il est important de
faire violence par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il est au-delà de la simple question médiatique. J'ai l'impression, c'est peut-être un biais, que les gens ont de moins en moins envie d'être confrontés à une opinion qui n'est pas la leur. Et les gens ont vraiment du mal à prendre du plaisir à regarder quelqu'un qui n'a pas ses idées politiques, alors que je pense que c'est sain. On est, je sais pas, de gauche, de se dire quel est le contre-argument qu'un éditorialiste de droite va regarder.
Mais ça, c'est lié justement.
Prenons quelqu'un de droite, ça devrait être. Pardon,
mais là, c'est la responsabilité des diffuseurs et la responsabilité des journalistes.
Des journalistes
aussi, parce que c'est plus facile.
Et des politiques.
Et des politiques, mais je suis totalement d'accord. C'est plus facile. Vous savez, il y a dans le journalisme, c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts. Malheureusement, beaucoup de journalistes ne font pas les efforts suffisants. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est très simple de prendre une information, de mettre 4 personnes autour d'une table et de commenter l'information. C'est beaucoup plus compliqué de prendre la même information, d'expliquer avant de passer au commentaire. C'est-à-dire que le passage par l'explication est oublié dans la plupart des cas. C'est ce qui me fait hurler, ça m'exaspère. Ça. On n'explique pas, on n'explique plus. Parce qu'on va aller trop vite.
Mais vous qui êtes du métier.
Oui.
Franchement, je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur, je suis en indépendant.
Oui.
Combien de journalistes aujourd'hui écrivent leurs fiches ?
Je ne sais pas. Moi, j'écris tout. Mais
si on a la moitié, franchement, je serais étonné.
Mais peut-être. Mais parce que le journaliste est bousculé aussi.
Ça dépend
aussi.
Des supports dont
il
on parle aussi.
Ça dépend des supports.
Il faut faire attention, on ne peut pas faire des grandes généralités.
Je pense qu'on ne peut pas faire des généralités comme ça.
En revanche, sur la qualité du débat public, ce qui est important, c'est la façon dont on a nivelé par le bas, avec les phénomènes de journaux gratuits et de chaînes d'information en continu, où il faut occuper le temps d'antenne avec du vide, avec beaucoup d'éditorialistes qui viennent s'exprimer sur tout et rien. Et ça, les gens en ont ras-le-bol. J'ai envie de dire, il faut aussi laisser du temps pour faire du terrain pour rentrer dans la complexité et la nuance. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu d'émissions qui le
proposent. Avec cette tendance qu'on met à l'antenne pour commenter l'actualité, n'importe qui, des personnes qui ne connaissent pas les sujets. Moi, ce que j'aime dans le débat, c'est avoir des personnes qui sont spécifiques, qui connaissent la matière dont on parle. Sinon, ça n'a aucun intérêt, mais aucun intérêt. Pardon, mais oui, David Médioni.
Oui, non, mais on a eu une illustration assez intéressante la semaine dernière avec le décès de la reine. Oui. Moi, je suis abonné à 4 systèmes d'alerte sur mon téléphone portable. En 4 heures, j'ai eu 77 alertes pour savoir que la reine était morte, ensuite que Charles III allait prêter serment, ensuite qu'il avait mis son costume, une fois qu'il avait été faire un petit tour, ainsi de suite. Bon, j'exagère évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a la responsabilité des médias qui font de l'alerte, qui créent de la tension autour de la reine Elisabeth III. Ensuite, Elisabeth II, pardon, qui est morte. Ensuite, il y a Elisabeth Borne, première ministre de la République française, qui déclare « la France est en deuil ». Est-ce que c'est pas ajouté aussi de la surexcitation à un phénomène qui, finalement, pour la France, est-ce que vraiment un Français est en deuil quand la reine d'Angleterre est morte?
Mais ça, voilà. c'est un autre débat.
Mais c'est aussi une question. C'est pas son rôle de politique.
C'est ce que j'appelle la posture, pardon, mais la posture, elle existe en politique comme dans le journalisme. Non,
ensuite, c'est la culture de l'émotion. Et c'est cette façon de faire de l'émotion et de vouloir étonner plutôt que d'informer.
Mais le plus gros problème par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que dans votre rapport, c'est bien expliqué. C'est la quantité d'alertes et de notifications que l'on reçoit qui, ajoutée à la publicité, perturbe notre attention. Et aujourd'hui, c'est une guerre de l'attention et cette attention est monétisée. Et c'est tout ce que l'on cherche à capter aujourd'hui dans le public. Et c'est pour ça que nous, citoyens, consommateurs d'informations, on doit absolument reprendre la main là-dessus. Et il y a plein de choses à faire. Ça,
oui,
c'est,
et beaucoup suppriment ces alertes d'ailleurs. Beaucoup maintenant suppriment ces alertes. Allez, il y a des gens, 29, ça passe très très vite. J'ai Samy qui nous appelle de Lyon qui sera avec nous dans un instant. Merci d'être là sur Sud Radio, 0826 300 300.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h32, nous continuons notre débat. Est-ce que nous sommes surinformés, mal informés? Samy est avec nous, Samy est à Lyon. Bonjour Samy.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour. Vous allez bien?
Oui Samy. Comment faites-vous pour faire le tri entre les informations que vous considérez comme essentielles et celles que vous considérez comme secondaires? Comment faites-vous?
C'est pas compliqué. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, l'abondance qu'on peut avoir de tweets, de réactions, de surréactions, d'émotions, je zappe. Oui. Donc moi je suis consultant presse en fait, donc je suis beaucoup dans la stratégie de médias, je lis toute la presse, j'écoute tous les médias, toutes les radios, je regarde toutes les chaînes, et c'est de plus en plus compliqué de faire la part des choses entre une information, on va dire, qui est l'écume du jour, et puis une information intéressante, pertinente, un débat approfondi. C'est pour ça que j'écoute beaucoup Sud Radio, parce que vous avez le temps de recevoir des invités qui ont le temps de s'exprimer, sur lesquels je ne suis pas d'accord forcément sur tout, mais sur Sud Radio, les gens ont le temps de développer leurs arguments et on a le temps de peser le pour et le contre. Et c'est de plus en plus rare dans les médias, en fait. Ça existe, ça se fait encore, mais c'est très compliqué. Et je vois que les gens autour de moi s'informent de moins en moins par les médias, on va dire, traditionnels, et plus en plus par les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de s'informer.
Attention, hein. Les réseaux sociaux, c'est vrai, il faut être très attentif. En fait, il faut être un expert presque pour fréquenter les réseaux sociaux. Mais sur Internet, on s'informe bien aussi.
Je ne sais pas si on s'informe bien ou pas. J'en sais rien. Moi, par exemple,
c'est comme la radio ou la télé ou c'est pareil.
Alors, si les gens y vont, c'est peut-être qu'ils trouvent que c'est pas pareil. Il y a le fond, il y a la forme aussi.
Oui, c'est la forme.
Il y a aussi un reproche dans la façon dont sont traités, par exemple, les politiques. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, les deux catégories professionnelles dont les Européens se méfient le plus, c'est les politiques et les journalistes. Oui. Cette jonction, elle est pas anodine. Oui. Les gens en ont marre, par exemple, de voir Bruno Le Maire qui a menti 4 fois cette semaine. Il passe le samedi et puis on lui pose pas la question. Vous, par exemple, vous êtes beaucoup plus relayé par les gens qui suivent des médias alternatifs que d'autres journalistes, parce que vous demandez à Bruno Le Maire combien ça fait 12 fois 12, il sait pas. Donc il y en a qui vont dire c'est un peu des magots machin, mais les gens ont envie de voir ça. Ils en peuvent plus. Le cas d'école magnifique, c'était Strauss-Kahn. Il arrive, hop, regardez, tour de magie, il y a rien. On lui pose aucune question, alors que le mec est quand même sous le coup d'un truc grave. Mais le boulot n'a pas été fait. pour eux. Et ça vous donne des trucs. Moi, je suis pas sûr. Enfin, quand je vois des gens me dire on s'informe chez toi, c'est aussi un peu dramatique parce que oui. Je suis humoriste de formation, moi.
Oui.
C'est pas mon boulot.
C'est pas
je fais,
boulot,
je fais le boulot de Viserec ou de Maurice. Moi, je fais des. Bon. Je suis chansonnier, donc j'exagère le trait puisque oui. C'est le but de l'humour. Donc non, je ne donne pas une information objective.
Ouais.
Et j'aimerais bien que les gens en aient une.
Vous savez, Anne-Sophie Novel, les journalistes n'aiment pas parler de ce qu'ils ne font pas, de ce qu'ils font mal, n'aiment pas parler de ces sujets, de la mauvaise information, de la surinformation. C'est rare, ce genre de débat. Vous avez, je rappelle, vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle « Les médias, le monde et moi ». C'était en 2019. Mm-hmm. Hein, et vous n'avez pas pu... Il n'a pas été diffusé en France.
Non, on m'a expliqué que ça ne ferait pas d'audience et que ça n'intéressait pas les Français, ce sujet. Voilà, je me suis retrouvée face à ça. J'étais pas, en plus, dans une critique radicale...
Vous posiez des questions.
Je pose énormément de questions dans ce documentaire. Je pars à l'étranger voir ce qui se fait. Oui. Dans chaque projection qu'on a fait en salle de cinéma, en France comme à l'étranger, on a eu énormément de débats qui pouvaient durer jusqu'à 2 heures de temps avec des personnes qui s'interrogeaient véritablement. Et il y a un vrai besoin. Moi, c'est ça que je
ressens.
Mais
un besoin de rester éveillé. Je dis toujours de rester éveillé. Oui. Éveillé dans tous les sens du mot.
Et sur Internet, il y a des très belles choses qui se font. Hein, Hugo Décrypte, par exemple, Hugo Trabert, oui. Qui a monté sa chaîne, pour les jeunes, il est essentiel. Oui. On a des médias comme Blast qui ont déjà été cités, qui essayent aussi d'aller informer sur ces... Voilà, en changeant la logique de format. Et les étudiants, moi j'accompagne beaucoup d'étudiants, me disent, on va certes sur Internet, mais quand une information que l'on croise sur Instagram, par exemple, nous intéresse, on a le réflexe d'aller vérifier et d'aller remonter à la source. Donc je pense qu'il y a peut-être une fatigue, une lassitude, une confusion. Mais quand une information attire l'intérêt, qu'on a envie de la creuser, on va vraiment chercher là où il faut.
François Jost est avec nous, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication, directeur du laboratoire Communication Information Média. François Jost, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Qu'avez-vous envie de dire dans ce débat ? Pourquoi sommes-nous parfois fatigués par l'information ?
Alors... Écoutez, ce que j'ai envie de dire. J'ai écrit en 2020, j'ai sorti un livre qui s'appelait « Médias sortir de la haine, point d'interrogation
oui. »,
qui partait du fait que j'éprouvais moi-même que il y avait les informations finalement nous déprimaient. Il y a une étude faite en 2019 par l'agence Reuters sur 38 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique, qui montrent que 32% des personnes interrogées évitent activement les informations. C'est-à-dire qu'ils barrent les informations, ça les déprime. Alors, ça les déprime pour plusieurs raisons. Parfois parce que, d'abord, ça paraît triste et que ça entretient dans une sorte d'attitude dépressive. Et puis aussi parce que beaucoup de gens se disent face aux informations, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore ? Il y a donc ce côté, si vous voulez, le ton hein, aussi de l'information, ce côté déprimant qui n'est pas dû aux journalistes seulement, qui est dû à notre monde aussi, hein, qui fait que on fuit l'information. Et en même temps, je suis totalement persuadé, et j'ai médité pendant des années en tant qu'enseignant là-dessus, qu'on a besoin d'une vraie information, qu'on a besoin de journalistes. Et vous parliez tout à l'heure des médias de gauche, des médias de droite, mais je crois que ça c'est un autre problème encore, c'est le problème de l'éditorialisation. Mais on peut attendre, effectivement, la dépêche AFP, c'est déjà un point de départ extrêmement important.
Mais bien sûr.
Et personne ne va dire devant une dépêche AFP, ça c'est de gauche, ça c'est de droite. Non, c'est la description la plus objective. Possible des faits.
François Jost, j'aime, c'est une réalité. Vous l'avez constaté dans votre. Ce que dit François Jost, vous l'avez remarqué.
Complètement, hein,
vous l'avez souligné.
C'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'il disait Reuters International, c'était 32% et qui disait que les débats étaient trop agressifs sur les médias et nous, c'était 34% en France.
Oui.
Donc vraiment,
c'est
quelque chose pareil. Et puis sur l'impact négatif sur l'humeur, sur le moral, c'était 31% dans les deux cas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu. Après, est-ce qu'il y a une solution à ça ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs solutions. C'est un truc plus plurifactoriel. Et je crois vraiment que c'est une responsabilité partagée des politiques qui doivent...
Mais des politiques et des journalistes.
J'allais y venir. Des journalistes qui doivent repenser leur format parce que justement, là, on est vraiment devant une logique de retrait qui pose question aux médias et aux journalistes et des citoyens qui doivent sortir de la logique addictive dont on parle dans l'étude, sur cette idée que on a des menus Big Mac XXL chaque jour d'information, on continue de les manger, on sait que ça nous fait du mal, mais on continue quand même de les manger. Donc on peut pas rejeter la responsabilité
sur les journalistes.
D'ailleurs,
vous faites le parallèle avec l'alimentation dans votre rapport. Pierre est à Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Pierre ?
Oh, j'ai pas mal de choses à dire. D'une part, je pense que la dépêche AFP est déjà un filtre à l'information. C'est-à-dire que la dépêche AFP, elle, déjà sélectionne l'information, ce qui fait que vous, en tant que journaliste...
Non, attendez, prenez... Pierre, attendez. Ouais. Je vais vous prendre un exemple. Je prenais l'exemple d'Elisabeth II. Elisabeth II est morte aujourd'hui à je ne sais trop quelle heure. Ouais. Là, la dépêche AFP ne sélectionne rien du tout. Elle donne un fait.
Elle donne un fait. Mais je peux vous donner des exemples très précis. Vous savez, je m'occupe d'un homme politique qui s'était présenté à l'élection présidentielle. On a mis 3 mois pour que l'AFP annonce sa candidature, ce qui est anormal alors que les courriers avaient été envoyés à l'AFP.
Oui, mais donc, là, Pierre...
À un moment donné, il s'appelle Jean Lassalle. Moi, je veux bien qu'on considère que l'AFP fait son boulot, mais à un moment donné, vous, justement, vous devez vous battre pour que, justement, ces choses n'arrivent pas, parce qu'automatiquement, à la fin, on considère que c'est le journaliste qui est responsable, alors que c'est l'AFP responsable.
Bon,
c'est
là où, Pierre, non, mais Pierre.
Beaucoup plus vigilant.
Oui, non, mais ça, je comprends. Mais vous dites quelque chose de très intéressant, Pierre. Vous dites que les sujets économiques, écologiques sont traités de manière superficielle, c'est-à-dire...
Pour expliquer les choses clairement, lorsque l'on parle d'écologie, on oublie d'aborder des sujets. En l'occurrence, depuis une quarantaine d'années, on a évolué au niveau des constructions et ces évolutions ont été vraiment en faveur d'un réchauffement climatique. Lorsque vous construisez par exemple un bâtiment, un hangar, un supermarché, un intermarché, on les fait en tôle alors qu'auparavant on les faisait en briques. On appelle ça le bardage, c'est-à-dire que les façades sont en tôle. Or, ça participe au réchauffement climatique et personne n'aborde ce sujet-là.
Là, vous avez raison.
Lorsque, par exemple, moi j'ai été pendant longtemps patron d'une société, donc c'était un établissement classé qui était une société de démolition automobile. Lorsque vous rentrez dans une société de démolition automobile, vous avez 3 degrés d'écart, c'est-à-dire 3 degrés de différence, parce que la concentration de véhicules endommagés donc réchauffe l'atmosphère. Ça, ça n'est pas abordé justement, donc là on le sait, donc les préfectures le savent puisque c'est un établissement classé. Mais c'est pas pour autant qu'en parallèle, du coup, concernant les bâtiments, on essaye de
il
trouver
y a un effort. Merci Pierre, merci. Il y a un effort considérable à faire, effectivement, sur la construction, sur les bâtiments, sur le terrain de l'écologie, évidemment. Hein, évidemment. Bon, et c'est bon pour la planète. À propos d'écologie, j'ai vu que vous aviez signé la charte. Qu'est-ce que c'est que cette charte ? Ce sont des journalistes qui lancent une charte pour un traitement médiatique à la hauteur de l'urgence écologique, c'est bien cela ?
Je fais partie de ce collectif, on est une vingtaine de journalistes de tout horizon, de petites rédactions comme de plus grandes, à avoir travaillé pendant 6 mois à la rédaction de ce texte. On est parti d'un constat, c'est que l'écologie a très peu occupé les débats pendant la présidentielle, pendant les législatives, et qu'on l'a traité par le petit bout de la lorgnette, en étant toujours sur les mêmes sujets de nucléaire ou d'agriculture, traité très rapidement. Sur France Télévisions,
on parle beaucoup d'écologie, on l'a traité en 10 minutes. Depuis des semaines et des semaines.
Oui, parce que c'est un sujet profondément politique et pendant longtemps, justement, on l'a complètement dépolitisé, décomplexifié. Et aujourd'hui, il est très important, nous, journalistes, de savoir questionner et poser les bonnes questions. Quand le gouvernement nous demande de couper le Wi-Fi ou de faire certains efforts sans aller sanctionner ceux qui émettent le plus d'émissions de CO2, le bon travail journalistique est d'aller fouiller les données, d'aller voir qui émet quoi en termes de quantité de CO2, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique et pourquoi en termes d'injustice sociale,
c'est un
travail
journalistique de base, ça, pardon.
On est bien
d'accord.
Est-ce
qu'on a besoin d'une charte
de journalistes?
Mais
pour l'instant, ce n'est pas fait.
Donc, la charte qui nous guiderait?
Oui. Alors, la charte n'est pas un guide. Non, j'insiste parce que les mots sont importants.
Parce qu'à ce moment-là, vous me pondez une charte politique.
Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de Françaises et de Français.
Comment interviewer un politique?
Qui nous interrogent toujours sur le respect de la charte de Munich, par exemple, qui fait quand même partie de ce qui encadre la déontologie de notre profession. Les Français sont très sensibles à cette charte et ceux qui posent cette question-là. Voilà. Nous, cette charte-là n'existait pas. Le monde a changé et force est de constater que la profession journalistique ne s'est pas assez emparée de ces questions ou pas correctement.
Mais vous êtes juge? Pourquoi?
Je ne suis pas juge. Non, pas du tout. Alors, je m'en garderai bien. C'est pas du tout la démarche d'être dans une démarche moralisatrice. On a deux leçons à donner à personne. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est juste qu'il y a une génération de journalistes qui a grandi avec la conscience de ces problématiques, qui n'est pas la même génération qui dirige aujourd'hui les médias, qui sait très bien qu'on a 10 ans. Là, la fenêtre de tir, elle est de 10 ans. Moi, en Gironde, j'ai compris cet été, parce que j'habite à côté de Bordeaux, qu'on a vécu un été inédit avec une canicule, une sécheresse, des communes qui n'ont plus accès à l'eau comme d'autres communes partout en France. Et ça, c'est profondément lié au changement climatique. Et ça, ce n'est jamais rappelé. Et on a encore des unes et des couvertures qui vont montrer les Français en train de manger des glaces sur le bord de la plage. C'est une réalité, mais il y a des gens qui souffrent dans des logements mal isolés. Il y a des agriculteurs partout qui ne peuvent plus avoir accès à l'eau, nourrir leurs bêtes ou produire suffisamment.
Mais vous ne pouvez pas montrer que le malheur.
C'est pas montrer le malheur. Alors l'écologie n'est pas une histoire de malheur. C'est une histoire en fait de propos scientifiques qui aujourd'hui montrent qu'il y a un certain nombre de données existantes et que dans les médias ces données sont rarement rappelées. Et puis pendant longtemps on a invité aussi en plateau, on en parlait tout à l'heure, des gens qui sont clairement climato-sceptiques, relativistes, technosolutionnistes.
Vous ne voulez pas les écouter.
C'est pas que je veux pas les écouter. Je dis juste qu'il y a peut-être d'autres personnes à inviter pour avoir de bons débats. Quand on invite la même géographe sur tous les plateau pour parler de sujets qu'elle ne maîtrise pas, ce n'est pas normal. Quand on invite des gens qui ont été payés par des lobbies agro-céréaliers ou agro-industriels, ça pose
rejoins.
Problème.
Et donc, mais il faut savoir qui on invite.
Et donc, on insiste là-dessus dans cette charte. Et donc, c'est vraiment pas... l'idée, c'est de dire que c'est une boussole qui va donner un cap.
Vous n'êtes pas donneuse de leçons, alors.
Non, vraiment, c'est pas du tout notre intention. On préfère plutôt rassurer. Être aidant et essayer de dire aujourd'hui, on est en train de vivre un nouveau régime climatique, écologique, et la profession journalistique doit... De manière transversale, c'est pas juste les journalistes spécialisés sur ces questions, de manière transversale, arriver à avoir ça en tête quand on traite de politique, quand on traite d'économie, quand on traite de sport. On l'a vu la semaine dernière avec Kylian Mbappé qui a pouffé de rire face à l'histoire du jet privé. Ça, il y a plein de Français qui ne l'ont pas supporté parce qu'on leur demande à eux de faire des efforts. Même les journalistes sportifs peuvent bien traiter ces questions-là. Et j'en parlais encore hier à l'IJBA, à l'école de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Les journalistes sportifs sont très conscients de ça et peuvent aussi intégrer cette dimension-là.
Bien, 11h40. 7, une petite pause encore et puis nous terminons ce débat et vous réagissez évidemment. Et je vais prendre François Jost, je ne vais pas le faire attendre trop longtemps. François Jost qui est donc aussi avec nous. A tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
François Jost, vous êtes là ?
Oui, monsieur.
Pardon, je vous fais attendre. François Jost, et le journalisme militant, et le journalisme éditorialiste, éditorialisé, si vous préférez, et tout ça, qu'en pensez-vous ?
Ah ben, je pense comme vous qu'à partir du moment où on a des éditoriaux, il faut laisser la place à toutes sortes d'opinions sur la même chaîne. C'est ça le vrai problème. Oui. Le problème du pluralisme aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à dire, comme pour la presse écrite, il y a des journaux de droite, il y a des journaux de gauche, etc. Mmh. Notre télévision a grandi dans l'idée que sur la même chaîne, on doit donner des avis différents. Et que le pluralisme, il se fait à l'intérieur de chaque chaîne et non pas sur l'ensemble du paysage audiovisuel.
Mais bien sûr. Non, mais ça me fait plaisir. Vous êtes d'accord avec ce que dit François Jost ?
C'est deux métiers différents.
Comment faites-vous ?
Il y a des gens qui sont sous-titrés journalistes, mais non, ce sont des éditorialistes. Oui. Ce n'est pas le même métier.
Mais dites-moi, sur votre chaîne, sur votre chaîne, comment faites-vous ? Vous avez toutes opinions ? Qui s'exprime ?
J'ai les miennes.
Vraiment ?
Déjà. Vous avez les vôtres. Alors, il y a toute opinion qui s'exprime, mais il y a toute opinion qui s'exprime ensemble aussi. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter entre nous.
Oui.
L'auditeur vient de temps en temps intervenir.
Oui.
Et ça, c'est un défaut. C'est pas un défaut, c'est lié à la différence de médias entre la radio et Internet.
Bien sûr.
Mais derrière, il y a une communauté qui se crée, avec des gens qui vont balancer 30,
40 000 commentaires.
Est-ce que votre communauté
pense, est-ce que tous les membres de votre communauté pensent la même chose ?
Absolument pas. J'ai organisé un débat sur l'immigration entre Georges Kouzmanovic et Pierre Gentillet. Il est utile de vous dire que les points de vue étaient très clairement différents.
Oui.
Je fais un sondage qui a gagné et j'obtiens sur 38 000 spectateurs, au total, 50,0 pour les deux.
Oui.
Bon, ben voilà, très bien.
Mais c'est formidable.
C'est fait. Donc, c'est non, bien sûr que non. Et les gens viennent plus que ça. Ils viennent chercher un média avec lequel ils ne sont pas d'accord et des gens dans un espace commentaire
donc,
avec lequel ils débattent.
Donc, il faut aller chercher un média, François Jost, il faut aller chercher un média avec lequel on n'est pas d'accord pour être bien informé ?
Non, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une information de base. On attend d'avoir simplement des nouvelles du monde. C'est ça qu'on attend. Oui. Et je crois que, moi, d'après ce que j'ai entendu ce matin, si vous voulez, le problème, c'est de rejeter les médias. Il ne faut surtout pas les rejeter parce que c'est la condition de la démocratie. En revanche, il faut les critiquer. C'est-à-dire que, moi, quand j'avais des étudiants, je leur faisais étudier le JT de TF1, celui de France 2, celui de BFM, et on comparait comment c'était fait. Voilà, c'est surtout ça. C'est quel est le regard
regard qui est porté sur l'information, qui est le plus qui est apporté aux dépêches de l'AFP.
Je pense que c'est important aussi de s'interroger en amont sur quelle est la bonne information qui va m'être utile et dont je vais pouvoir me servir et qui va me donner une capacité d'agir en société.
Parce que pour beaucoup, la bonne information, c'est celle qui correspond à ce qu'on pense.
Mais pour répondre à cette question de fatigue informationnelle, c'est essentiel, à mon avis, en préambule, de s'interroger là-dessus. Parce que c'est comme ça, ensuite, qu'on peut orienter le choix de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, et comprendre que les médias ne sont pas une masse uniforme que l'on va rejeter bien loin parce qu'on ne les supporte plus, mais qu'elle est composée de différents types de pratiques, de spécialités, de formats, de rapports au temps, et qu'on a le choix. Et que quand on est bien éclairé sur ce paysage médiatique, on peut facilement s'y retrouver.
David Médiani. Ouais, et puis pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Anne-Sophie Novel et François Jost, encore une fois, l'objet de l'étude, c'est pas de mettre en cause les médias. L'idée, c'est de pointer un phénomène, de documenter un phénomène et surtout de montrer que les responsabilités sont partagées. Comme on a les politiques qu'on mérite, on a aussi les médias qu'on mérite. Et quand on est en recherche addictive d'émotions, de Big Mac, d'informations et de surinterprétation des faits, eh bien, on a aussi des médias qui sont contraints par moment de travailler comme ça. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, politique, médias et citoyens ont un travail collectif à faire sur cette question de la fatigue informationnelle qui est une question démocratique et une question de santé publique aussi.
On va aussi, dans certains médias, chercher des certitudes. Hein ? C'est un réducteur d'incertitudes, l'information.
Bien sûr que c'est un réducteur d'incertitude, mais Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, disait à ses journalistes ce que je recherche, c'est pas l'objectivité, je recherche la subjectivité des intéressés. Qu'est-ce que c'est que la subjectivité des intéressés? C'est finalement chacun, demain on est tous témoins d'un accident dans la rue, vous, Jean-Jacques Bourdin, vous allez avoir une interprétation, Anne-Sophie va avoir une interprétation, moi je vais avoir une interprétation. Et bien après, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les faits, les fameux 5 catégories de faits, où, comment, quand,
et ainsi de suite. Malheureusement, on a beaucoup oublié ça.
Et puis ensuite, c'est finalement raconter la scène comme le journaliste l'a vu. Et c'est à ce moment-là que l'information sera beaucoup plus apaisée et certainement mieux reçue par les Français et qui seront moins fatigués par l'information.
Grégory Tabibian.
Mais il y a un truc... Alors, je vais essayer de défendre un peu les gens dont on dit qu'ils font pas trop d'efforts pour bien s'informer. J'ai beaucoup de méfiance avec les Français rejettent les médias. Parce que, comme vous le disiez, les médias sont pas tous les mêmes, mais les gens le voient, ça. J'ai fait les gilets jaunes, beaucoup, et beaucoup de gens disaient « Regardez, les médias se font caillasser ». Les médias se font pas caillasser. BFM se fait caillasser. CNews se fait caillasser. Mais pourquoi le journaliste de Sud Radio, d'autres médias, par exemple, se fait moins emmerder? BFM et TF1, c'est une catastrophe. Ils pouvaient pas foutre les pieds. Et là, j'ai dit « CNews, c'était non, ils sont mieux acceptés ». M6, par exemple, pourquoi ils ont une image où ça passait mieux?
Il n'y a jamais une bonne raison de caillasser un journaliste. Il n'y a jamais une bonne raison en démocratie de caillasser un journaliste.
J'essaie de comprendre la colère.
Il n'y a pas de bonne raison de caillasser un journaliste.
La question que posaient les gens, c'était « Vous êtes de quel média ? Vous êtes de quel média ?» Parce que pourquoi BFM, par exemple, a une mauvaise image, mais d'autres ont, dans ces mouvements populaires, une meilleure image. Les gens ne mettent pas tous les médias.
Mais il y a certains journalistes qui cachent leur logo sur leur caméra pour justement...
Parce qu'il y a des problèmes.
Merci François Jost, merci. Vraiment, merci à vous trois d'être venus, ça va très très vite, et déjà 11h57, Jean-Luc nous a appelé, mais je prendrai Jean-Luc juste après les infos de midi, parce que quand on appelle, il faut être à l'antenne, je l'ai promis, donc je prendrai Jean-Luc, il n'y a pas de problème, 0826 300 300. Merci d'être venu nous voir, 11h57.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Nous allons parler énergie, nous allons parler bouclier tarifaire. Pourquoi ? Parce que Elisabeth Borne, dans quelques minutes, 15h30, va nous donner des informations. D'abord, nous saurons à partir de 15h30 à quoi ressembleront nos factures l'année prochaine, nos factures d'énergie. Et puis, le bouclier tarifaire, quel bouclier tarifaire ? Et puis aussi les plans de sobriété pour réduire la consommation énergétique. Nous parlerons de tout cela demain, évidemment, mais déjà, en parlant d'énergie, eh bien, nous allons réfléchir à tout ça avec des informations que va nous donner Jean-Marc Silvestre, qui est journaliste économique à Atlantico, qui sera avec nous, notre invité. Quel impact de la crise énergétique sur les ménages français par rapport aux ménages européens ? J'aimerais savoir, est-ce que nous sommes mieux protégés qu'ailleurs en Europe ou pas ? Il y a un rapport du FMI qui dit que les ménages français sont parmi les mieux ou les mieux protégés en Europe, à part les Hongrois, je crois que nous sommes parmi les mieux protégés en Europe contre les hausses des prix. Pourquoi ? Mais qui paie ? C'est la question qui est posée et nous la développerons avec Jean-Marc Sylvestre dans un instant. Et puis je prendrai Jean-Luc, je l'avais promis, pour poursuivre le débat que nous avons eu précédemment. Il est 12h10, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous pour cette dernière demi-heure jusqu'à 12h27 maintenant. Demi-heure, ça fait 13 minutes. Hein. Nous parlons d'énergie, parce que les informations se multiplient autour de l'énergie. Ursula von der Leyen qui a pris la parole ce matin, qui a parlé des super profits, des sanctions contre la Russie, de l'électricité. Nous aurons Elisabeth Borne cet après-midi à 15h30. Nous allons en parler avec notre invité Jean-Marc Sylvestre. Mais je l'ai promis, Jean-Luc est avec nous, nous appelle sur le débat précédent sur les médias. Est-ce que, pourquoi cette fatigue informationnelle ? Est-ce que nous sommes surinformés, mal informés, trop informés ? Jean-Luc, vous êtes en Dordogne. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour.
Bonjour, que vouliez-vous dire ?
Écoutez, ce que je voulais vous dire, c'était, je pense que la presse, on a un souci avec la presse, c'est qu'elle elle informe mal. C'est-à-dire que déjà, à la base, il faudrait peut-être arrêter un peu de passer uniquement par l'AFP. Parce que l'AFP, c'est une soupe qui est, comment dire, qui est distribuée, qui est envoyée sur toutes les chaînes.
Alors Jean-Luc, je vous rassure, aujourd'hui dans les salles de rédaction, il y a l'AFP, il y a d'autres agences, mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a Internet. Vous savez, les journalistes aujourd'hui sont à la limite, et c'est peut-être un peu dommage, plus attentifs aux réseaux sociaux, aux tweets par exemple, qu'aux dépêches de l'AFP. Ce qui est un peu dommage aussi Jean-Luc, hein.
Tout à fait, tout à fait. Moi, ce que je regrette également, c'est que il n'y ait plus, comment dire, de débats contradictoires, qu'il n'y ait plus, comment dire, à mon sens, qu'il y ait un manque d'investigation. Mmh. Parce que bon, il ne suffit pas de donner des explications. Les explications, on a une intelligence, on est capable d'analyser, de comprendre les choses. Mmh. Moi, d'autant plus que moi, j'ai vécu plus de 60 ans, donc j'ai en mémoire encore des émissions comme Droit de réponse avec Pollack, où il y avait des débats réels avec des personnes qui étaient d'un avis différent et qui animaient le débat et qui permettaient de se faire ton opinion. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mmh. Ça n'existe plus du tout. Mmh. Alors, nous délivrer perpétuellement une soupe. Je parle pas pour vous.
Oui, non, mais
voilà. Je pense que quelque part, ça ne fait qu'exacerber les.
Donc
les
vous avez besoin, oui, d'investigation et de débats contradictoires.
Exactement. Ouais. Exactement.
Merci exactement. Jean-Luc. Merci de nous avoir appelés. Parlons de cette énergie là, qui nous rend soucieux. Cet après-midi, la Première ministre présentera l'état de la situation énergétique de la France et les mesures de protection des Français. Nous en saurons un petit peu plus. Jean-Marc Sylvestre, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci, je ne vous
Merci
présente
vous.
Pas et je ne vous présente plus. Jean-Marc Sylvestre, économiste de renom et de qualité. Jean-Marc Sylvestre, J'ai vu votre éditorial sur Atlantico, le site Atlantico, pour le FMI. Alors j'ai été surpris quand j'ai vu ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir. Pour le FMI, le Fonds monétaire international, les ménages français sont les mieux protégés en Europe contre les hausses de prix. C'est vrai ça ?
Écoutez,
ce sont
les chiffres du FMI et j'ai aucune raison de penser qu'ils ont retenu des chiffres faux. Pour faire un lien avec votre correspondant là, qui vient de vous appeler, c'est vrai que quand on écoute les experts, les commentateurs, les responsables politiques et sans doute une grande partie des médias et des débats d'ailleurs, parfois contradictoires, on a quand même tendance, et le résultat est là, à se désoler.
Oui.
À se désoler.
Ça, c'est vrai.
En revanche, quand on prend les faits et les chiffres, nous, Français, on a des raisons de se consoler. Donc, si on se regarde, on se désole. Si on regarde les autres, on se console. Et je pense que le FMI, je suis tombé sur cette étude qui n'a pas eu beaucoup d'écho, mais qui montre quand même que, compte tenu de toutes les aides qui ont été apportées pour essayer d'assumer et de répondre à l'inflation des produits énergétiques, la France et les Français ont été parmi les mieux protégés. Si l'on prend les chiffres, nous avons à peu près, dans le courant de l'été, une perte de pouvoir d'achat de 5% en moyenne, alors que vous avez des des catégories d'Européens. Vous avez des Européens, en gros, en moyenne, c'est entre 7 et 10%. Et puis, vous avez des Européens comme en Estonie, en Tchécoslovaquie, et même en Hollande, qui sont beaucoup plus pénalisés que nous en termes de pouvoir d'achat.
Alors, l'impact des hausses de prix de l'énergie sur les ménages français donc, a été mesuré
direct
par
et
le FMI.
Oui.
Voilà. Sur les ménages les plus riches et les ménages les plus pauvres.
Oui. Les ménages les plus riches et les ménages les plus pauvres, pour une très bonne raison, c'est que en gros, comme ça pèse essentiellement sur les produits énergétiques et sur l'essence, le diesel, le chauffage, mais encore que pendant cette saison, on n'en utilise pas beaucoup, mais également les produits de base, c'est-à-dire les produits alimentaires de base qui utilisent beaucoup de transport, etc., eh bien, cette part de consommation-là est plus importante en pourcentage du budget sur les plus pauvres que sur les plus riches.
Donc, vous voulez dire
pèse plus sur les plus pauvres que sur les plus riches en pourcentage de budget.
Ça pèse plus évidemment, sur les plus pauvres évidemment. Que sur les plus riches, évidemment, mais les plus pauvres comme les plus riches sont mieux protégés en France qu'ailleurs.
Les plus pauvres comme les plus riches sont mieux protégés en France qu'ailleurs pour une autre raison, c'est que la France a repris...
Ça va faire beaucoup d'auditeurs, ça.
Non, mais parce que la France...
difficulté à finir les fins de mois.
Oui, parce que la France, et ça va peut-être changer, on va le savoir cet après-midi, mais la France a choisi un système d'aide généralisé, arrose tout le monde.
Ça coûte une fortune.
Alors, ça coûte 24 milliards. Ça a coûté 24 milliards.
Ça a coûté 24 milliards jusque-là.
À l'heure qu'il est, ça a coûté 24 milliards, qui s'ajoutent évidemment aux autres aides et aux autres
allocations.
Est-ce qu'on
doit poursuivre ce bouclier tarifaire, ce contrôle de la hausse des tarifs
Écoutez, je pense qu'il va falloir le poursuivre, vraisemblablement pendant toute l'année 2023, parce que les additions vont devenir insupportables. Hein, parce que, pour l'instant, on n'a pas encore engrangé la plupart des hausses. On n'a pas facturé la plupart des hausses, notamment de l'électricité, notamment celle du chauffage.
Il faut s'attendre à des hausses
qui vont être importantes. En Angleterre, on a déjà fait le calcul, qui est vraiment sans doute le pays en Europe le plus mal loti. Les factures d'électricité ont déjà doublé, quoi, en gros, gaz et électricité. Donc, on ne peut pas supporter un doublement des factures d'électricité. Les types qui vous payez 100 ou 150 euros, du jour au lendemain, vous retrouvez avec 300 euros.
Mais bien sûr.
C'est impossible.
C'est
insupportable. Déjà que le plein d'essence coûte très cher. Donc il va falloir faire quelque chose. Alors, toute la question est de savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut continuer d'arroser tout le monde, c'est-à-dire de subventionner le prix de l'électricité, de subventionner le prix du gaz pour qu'il soit acceptable par tous, ou alors est-ce qu'il faut cibler?
Oui.
Cibler.
C'est toute la question. En fait.
Il faut cibler les personnes les plus fragiles, et est-ce qu'il faut restreindre la consommation? Et comment on restreint?
Et comment
par l'incitation ou par l'interdiction?
Par l'incitation et l'interdiction. Ouais. Vous posez vraiment bien le problème, Jean-Marc Sylvestre. D'ailleurs, on attendra les réponses d'Elisabeth Borne cet après-midi. Elle doit donner ces réponses-là.
Elle doit normalement donner ces réponses-là.
Bon, on va prendre Ludovic, qui est à Rochefort, en Charente-Maritime. Bonjour, Ludovic.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur Sylvestre.
Merci Ludovic d'être avec nous, hein, vraiment. 0826-300-300, c'est un plaisir de vous retrouver là tous, toutes et tous, le matin sur Sud Radio, avec moi, 10h30, midi et demi, Ludovic. Vous êtes un auditeur fidèle de Sud Radio ?
Oui, tout à fait, avec Patrick Roger un peu le matin, de temps en temps quand je peux avec vous, les vraies voix également de 17 à 20 heures.
Oui.
Donc je suis très fidèle à Sud Radio, oui, et j'apprécie le pluralisme des débats qu'il y a sur cette antenne.
Ben, merci beaucoup Ludovic. Que vouliez-vous dire à propos de l'énergie donc ?
Ben, au niveau de l'énergie, plusieurs choses. Déjà qu'on paye quand même quelque part le manque de vision, de stratégie de l'État au départ. On paye cette forme d'inconséquence. Il ne faut pas oublier également donc l'indexation du prix qui se fait de l'électricité qui se fait sur le gaz. On a une étude également récemment qui disait que en moyenne les Français devaient gagner environ 500 euros de plus pour s'y retrouver tous les mois. Avec ces hausses vont impacter bien sûr tous les ménages. En zone rurale, c'est davantage le carburant, en zone urbaine peut-être le gaz et l'électricité. Il ne faut pas oublier ça. Également, il y a un impact d'un point de vue également industriel, parce que est-ce qu'on va pas passer en régression structurelle, c'est-à-dire et qui va aboutir à des augmentations de prix si on produit moins. Donc à partir de là, c'est très très compliqué de ne pas y voir forcément un impact. Un bouclier fiscal, ok, oui, mais qui va le payer? Qui va le payer? Au final, c'est peut-être le contribuable étalé sur plusieurs années, voire des générations.
C'est la question que vous posez à Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc Sylvestre, qui va payer?
Qui va payer le bouclier fiscal? Évidemment, la totalité de la population, oui. Et peut-être même les générations suivantes.
Et peut-être
parce
même
que dans la mesure où nous n'avons pas les moyens, nous, de payer les factures...
Est-ce qu'on a moyen de faire autrement, aujourd'hui?
On a sans doute les moyens de faire autrement, c'est de faire riper des dépenses, que j'appellerais des dépenses de conjoncture, sur des investissements de structure. Oui. Je m'explique, parce que je ne voudrais pas être trop compliqué. Nous avons, à partir du moment où vous donnez une allocation courante à quelqu'un pour qu'il puisse survivre, c'est intéressant et c'est bien, mais si cette allocation-là est destinée à faire de la consommation immédiate, il va falloir la payer, et on va la payer très cher. En revanche, si cette allocation sert à faire de l'investissement qui permettrait d'économiser de l'énergie ou d'avoir une nouvelle forme d'énergie.
C'est-à-dire investissement pour rendre son logement
plus hermétique, pour avoir des énergies alternatives.
Pour peut-être
reprendre qui
vous
a
dites,
été évidemment
oui, il faut
la
donner
grande
de l'argent, mais pour que cet argent soit investi.
Oui. On attend parallèlement à un bouclier fiscal qui permet de survivre, c'est-à-dire la fin du mois, des investissements qui permettent de prévoir dans 2, dans 3 ans ou dans 4 ans. On attend encore le plan de relance du nucléaire, par exemple, parce qu'il est évident qu'il va falloir que nous passions au nucléaire, quoi qu'en disent nos amis écologistes.
Oui, le nucléaire, mais ça n'empêche pas de développer aussi le renouvellement.
Non, ça n'empêche pas de renouvellement les énergies naturelles.
Les énergies naturelles, évidemment.
Parce que, vous savez, il ne faut pas
opposer. Pourquoi est-ce qu'on oppose toujours dans ce pays les uns aux autres ?
Il ne faut pas faire croire non plus que la guerre en Ukraine est responsable de tout.
Oui.
La hausse du prix du pétrole, elle est antérieure à la guerre en Ukraine. Le pétrole, d'ailleurs, n'a pas bougé depuis 6 mois.
Il n'a pas bougé.
Hein. Les problèmes sur le gaz, ils sont antérieurs à la guerre en Ukraine. Ça fait longtemps qu'on commençait à dire aux Allemands, ne vous piégez pas trop avec un seul fournisseur. Donc, on sait très bien que les énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz et le pétrole, sont en voie d'épuisement. Et parce qu'elles sont en voie d'épuisement avec des pays émergents qui vont en consommer davantage, le prix va forcément monter. Oui. Donc, il faut régler ça.
Jean-Marc Sylvestre, vous parlez de l'Allemagne. Ce qui se passe en Allemagne est bien plus grave que ce qui se passe chez nous.
Ce qui se passe en Allemagne est plus grave que ce qui se passe chez nous parce que l'Allemagne a un potentiel industriel qui a besoin aussi des pays émergents, c'est-à-dire qui a besoin de pouvoir exporter ce qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui.
Oui, et puis une industrie plus développée que la nôtre, donc qui a besoin d'énergie pour fonctionner.
Qui a besoin de plus d'énergie et notamment du gaz. Ils se sont piégés avec le gaz.
D'ailleurs,
et le charbon, ce qui est quand même un paradoxe absolument incroyable et invraisemblable à l'époque, c'est que une population qui était verte, dominée par des formations écologiques, eh bien, on arrive aujourd'hui à préférer ouvrir des centrales au charbon plutôt que de
faire former... Le renversement de l'histoire.
Bah oui, complètement.
C'est le renversement de l'histoire. Bien, Jean-Marc Sylvestre, merci d'être venu nous voir. C'était passionnant. Vous reviendrez, si vous le souhaitez. Ici, évidemment, nous parlerons des questions d'énergie,
avec grand plaisir,
d'économie.
Avec grand plaisir.
D'économie, ici, sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, Jean-Marc. Vous appelez le 0826-300-300. Tout au long de la journée, vous le savez, merci à Ludovic, tout au long de la journée, vous le savez, sur Sud Radio, mais surtout, entre 10h30 et midi et demi, dans cette émission qui me rend joyeux tous les matins. Je suis heureux d'être avec vous. Là, merci, nous sommes avec André Bercoff dans un instant.